France Culture.
Tu es un homme noir, très grand, queer, qui a l'air très intelligent, parce que tu portes des lunettes. je dirais aussi que tu es un fashion.
La vie en noir.
C'est un cri sans son.
Une série documentaire de Sébastien Thème, réalisée par Yaël Mandelbaum.
Mais c'est un cri sans son parce qu'au fond, si le son sort, c'est perdu. J'incarne le cliché.
Je pense qu'il me voit comme une fille grande de taille, foncée, avec des lunettes, un peu maladroite aussi.
Beaucoup de gens projetaient des choses que je ne maîtrisais absolument
épisode
pas.
Épisode 2, tu donnes histoire d'un cliché.
Il en sort de partout, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de papous.
Récré à deux, 1987.
Avec leurs cris de guerre, ils font la chasse aux autos. Ils grimpent au réverbère pour cueillir des noix de coco. Il y a des papous, allô général.
Qu'est-ce que c'est?
Il y a des papous. Est-ce
que tu peux décrire ce qu'on a vu, ce que tu as vu?
Eh bien, je me le demande encore. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une femme blanche parcourir les rues de Paris, très certainement, et qui se met à chanter qu'il y a des papous partout.
Douce Dibondo.
Et est-ce que c'est normal, général?
Journaliste et autrice.
Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une dizaine de personnes qui interprètent les papous, avec des caches-sexes. Enfin, voilà, tout est convoqué. Le lien entre les papous et les éboueurs, qui à la fois détonnent dans cet espace, mais qui nous servent aussi finalement de nettoyeurs, de surveillants aussi finalement, parce qu'ils montent sur les réverbères en regardant quoi, je ne sais pas. Parce qu'ils sont les nettoyeurs de nos villes, des villes blanches, des villes neutres, des villes bien comme il faut. Et donc ça nous renvoie évidemment à toutes les paniques raciale, du grand remplacement, de la théorie du grand remplacement, de la théorie du pullulement. Voilà, ils pullulent. S'ils sont là dans une rue générale, peut-être que d'ici là, demain, ils vont se reproduire et il y en aura partout et ce sera incontrôlable, général. Qu'est-ce qu'on fait? Où est l'armée? Où sont les forces de l'ordre? C'est ce qu'on vit depuis que je suis en France, c'est ce discours-là que j'entends. Hein. Je suis arrivée en 2005 en France, les nettoyés au Karcher de Sarkozy, et on peut en citer plein des exemples. Mais là, c'est sous le ton de l'amusement, et c'est adressé à des enfants, c'est
ouais,
ça. Donc voilà,
c'est une chanson pour
enfants, donc c'est totalement dépolitisé, mais tout est convoqué pour nourrir, évidemment, ces images... coloniale, raciste, déshumanisante aussi à travers cette chanson.
On grandit en se disant qu'on est de toute manière réduit à juste nos corps.
Christelle Murula.
Parce que les premières figures noires que tu vois à la télé, ce sont des sportifs.
Journalistes et
autrices. Les premières remarques que tu te prends dans la rue, c'est sur ton corps. Moi, en tant que femme, tes grosses fesses ou tes gros seins, alors que j'ai quoi, 9-10 ans. Enfin... tout tourne autour de nos corps, en fait. Soit nos corps sont trop présents, soit ils sont trop imposants, soit ils sont trop menaçants, ou alors ils travaillent bien, ou alors ils travaillent pas assez bien, ou alors vous êtes là pour nettoyer derrière nous, nettoyer nos bureaux, nettoyer nos toilettes, voilà, être agent d'entretien, garder nos enfants. Nos corps sont faits pour traverser juste la vie, sans parler, sans converser, sans rien faire. Juste on traverse là, on est là pour être des figurants. En fait, c'est des figurants dans la vie quotidienne des gens, sans pouvoir faire grand-chose, quoi.
Bah, moi, enfant, tout ça m'a, et là, très consciemment marqué.
Sikou Niakate.
La hiérarchie que faisait la France entre les différents noirs du monde, moi, j'ai fini aussi
auteur
par la faire.
Et documentariste.
En me disant que les noirs américains étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus stylés que nous, beaucoup plus cool, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus riches, beaucoup plus tout que nous. Et donc. Quand on est dans un pays, surtout dans les années 90, qui déjà représente peu les personnes noires, mais qui, quand elles les représentent, représentent de manière glamour les Afro-Américains, et avec un dédain et une brutalité, les Noirs de France, d'un coup, même dans l'inconscient collectif, ça crée quelque chose. Ça imprime quelque chose. Moi, ça, en tout cas, ça l'a imprimé en moi. Et donc oui, moi je m'en souviens, il y avait un film qui s'appelait Street Dancer. Il m'a marqué, et alors même que bon, c'est un film de danse, je me suis dit mais j'aimerais y aller. Il y a évidemment eu ma famille d'abord qui là m'a retourné. Je me suis dit waouh, une famille noire CSP+, ça existe. Et alors que là-bas c'était courant, il y en avait plein des séries qui tournaient autour de la même sociologie. Et au fond oui, moi ça a inscrit en moi que je faisais partie non seulement en tant que pauvre du quartier des personnes en bas de l'échelle, mais en tant que noir, que je faisais partie des noirs dévalorisants du monde.
Depuis que je suis né, on m'a appris à regarder mes propres gestes comme des menaces. À mesurer mes pas, ma voix, mon corps. Comme si chaque mouvement pouvait confirmer ce que le monde blanc croit déjà savoir de moi. Il y a des images qui collent à la peau des Noirs. Le noir est un symbole avant d'être une personne. Le noir, c'est l'autre. Le noir, c'est la peur. Le noir, c'est l'énigme que l'on veut résoudre sans jamais me demander ce que je suis vraiment. Alors, j'apprends à courir avec ces clichés, à les esquiver, à les dépasser, à les transformer, à inventer des façons d'être qui ne se réduisent pas aux peurs des autres, à habiter mon corps malgré ce qu'on projette dessus. Et puis, il y a eu le cinéma américain. Will Smith, Eddie Murphy. Le noir cool, le black drôle, charmant, irrésistible. Le noir que l'on admire à la télévision, dans les films, dans les clips. Mais ce noir n'existe qu'aux États-Unis. Ici, on me regarde autrement. Et moi, je regarde autour de moi. Les noirs qui travaillent, les noirs qui s'affirment. Ces vies qui ne ressemblent jamais aux stéréotypes. Ces corps qui disent « nous existons ». Et nous ne sommes pas ce que vous imaginez. Et c'est une course. La course contre les images toutes faites. La course pour être humain, entier, libre. La course pour devenir soi, malgré la peur que l'on veut mettre en nous. Parce que le monde a peur du noir. Mais moi, je cours vers le noir.
On ne peut pas nier que le cinéma américain a donné droit à des personnages de héros, des protagonistes charismatiques noirs, quand le cinéma français était quand même dans un néant de représentation de ce point de vue-là. Et effectivement, de voir que ça a très vite propulsé leurs figures populaires, leurs idoles comme Will Smith, en figure de flic, en tout cas en termes de dépolitisation de ce que c'est que qu'être un homme noir dans l'Amérique raciste qu'on connaît, des violences policières très Black Lives Matter de loin à ce moment-là, de mettre les noirs en flics, c'est vrai que je vois en quoi ça a pu cultiver un angle mort. Ça les place dans le rôle de gardien de l'ordre et de la loi, tout en leur donnant ce petit swing un peu... cool, c'est vraiment le, je pense, la...
Ah bah oui, c'est la, le mot.
Je pense que c'est cette idée que, sans doute, qu'ils vont pouvoir s'infiltrer dans tous les milieux et qu'à l'arrivée, en définitive, on sait de quel côté ils sont.
Sandra
du côté
Onana,
de l'État, de la loi, etc.
Critique de cinéma.
Ça veut dire quoi, un acteur cool ?
Je pense que c'est une histoire d'allure, de rythme, quand tout le monde court, lui, il est lent, et... C'est toujours celui qui va faire une vanne alors qu'il vient d'échapper à la mort. C'est, je pense, le trait d'esprit, le trait d'humour, plutôt que la sueur qui coule sur le front. C'était moins une, mais en tout cas, quelque chose, je trouve, dans l'allure, dans le rythme. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Je pense que c'est un rythme.
Toi, toujours ou presque, toujours seul de ton espèce, dans la pièce. Parfois deux. Trois, c'est une foule. Trois, c'est un gang. Trois, c'est une bande de voleurs. Trois, c'est la vache. Qu'est-ce que vous êtes nombreux. Trois, et on te confondra avec des gens qui ne te ressemblent en rien. On t'appellera Devine. Ton nom n'est pas Devine. Tu fais de ton mieux pour ne pas ignorer ce tranquille effacement.
Effacement, tu le sais, le silence.
Tu le sais, le silence.
Sera pris comme une affirmation. Un compliment même, et tu l'es toujours affirmatif.
Tu l'es toujours affirmatif. Toi,
l'action man
de
l'affirmative action.
Toi,
le formidable premier ami. Noir.
Toi,
le garant des quotas,
au premier tour. Toi,
diversité, à toi tout seul.
À toi tout seul,
tu contiens des multitudes, mais tu es contenu où que tu ailles.
Confiné,
comme s'il y avait toujours
quelqu'un.
Quelqu'un qui te surveille, mais n'est-ce pas
le cas,
et n'est-ce pas le but même de cette chair dont tu as hérité,
cette tâche impénitente,
soit deux fois meilleure, dit maman. Comme si ce qu'ils ont
valait ta panique.
Toi, perpétuellement,
désolé.
Tu ne sais pas pourquoi tu t'excuses auprès de personne en particulier.
T'excuses auprès de personne.
Juste d'être là.
En particulier. Et dans ton corps en même temps.
Tu le sais, ton corps est le vrai problème. Toi, le monstre. Toi, la bête de charge. Toi, la bête et la charge.
Toi, le cheval, mais humain. Toi, le cheval, mais humain. Toi, le centaure.
Tu dresses la carte.
Des étoiles et tu bandes
ton arc.
La lune
pour
dans
toucher
son unique bon œil blanc.
La lune dans son unique bon œil blanc.
Tu es extraordinaire.
Dit ta grande sœur.
Dans tes meilleurs jours au-dessus du sol,
toi.
Tu la crois.
L'Amérique sera Joshua Bennett.
On m'a décrit souvent comme effrayant. À cause de ma stature, je pense pas avoir des traits particulièrement effrayants, enfin plus effrayants que ça. Mais mon physique, du fait de ma taille, disons, notamment, probablement de mes goûts vestimentaires, peut-être, font qu'on m'a souvent décrit comme effrayant. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est m'arrivé plusieurs fois, parce qu'il y a des gens qui me connaissent un petit peu d'Internet, ou qui ont lu mes livres, qui m'ont suivi dans tel ou tel média, et qui m'ont dit, je t'ai reconnu dans le métro, je t'ai reconnu dans tel bistrot à Paris, dans telle librairie, mais je suis pas venu te parler, même si j'avais une question ou deux à te poser, parce que tu m'as fait peur quand je t'ai vu. Je m'attendais pas à ce que tu ressembles à ça. Pourtant, ce sont des gens qui savent la tête que j'ai, puisqu'ils m'ont reconnu. Mais quand ils m'ont vu en entier,
Norman Ajari,
ça leur a fait peur.
Philosophe.
Ça me rend un peu triste parfois, parce que j'aurais bien aimé leur parler, plutôt que de les effrayer. Mais oui, c'est comme ça.
Moi, j'étais en face de moi, et tu parles de tes goûts vestimentaires un peu effrayants. Pour le coup, tu as une chemise, on appelle ça Liberty, avec des fleurs.
Oui, parce que c'est l'été. Quand c'est l'hiver, je m'habille tout en noir. Je suis un peu plus, je vais pas dire gothique, mais...
Ah ouais.
Un peu comme ça, ouais.
Un peu émo.
Ouais, voilà, exactement, émo, je pense que c'est le terme qui convient.
T'as des bracelets, t'as une montre, une belle montre, t'as les yeux noisettes, cerclés de noir.
Ah, oh, noisette, alors quand on dit ça, c'est toujours flatteur, noisette, ça c'est poétique. Parce que les yeux marrons, bon, c'est un peu banal. Quand les yeux sont noisettes, waouh, tout de suite, c'est tout beau, quoi.
On m'a souvent dit que je faisais peur aussi. On me le dit souvent. Je sais pas tellement ce que ça veut dire.
Ouais.
Et je sais pas où est-ce que ça me place. C'est-à-dire, est-ce que ça me place à un endroit qui est pas celui où je devrais être. Donc, soudain, je fais peur parce que je représente plus que ce qu'on attend de moi de manière évidente. Et du coup, j'arrête pas de me dire où est-ce que je devrais être.
Qu'est-ce qui serait rassurant? C'est une question terrible, en fait. C'est une question terrible parce qu'elle me rappelle des événements graves, comme, disons, tout ce qui est les contrôles policiers, les outrages et rébellions, comme on appelle ça en France, ou toute forme de résistance est immédiatement criminalisée lors de la contrainte physique. Je fais le parallèle parce que on est obligé de résister dans une contrainte physique. On ne peut pas devenir immédiatement un être dénué de muscles, dénué d'os, dénué de force physique lorsque on vous brime et lorsque vous êtes soumis à des palpations que vous ne voulez pas, auxquelles vous n'avez pas consenti et que vous estimez injustes, etc. Vous êtes obligé de résister. Or, on attend de nous une absence totale de colonne vertébrale, une espèce de dissolution presque de notre propre corps, de notre propre schéma corporel. Et c'est une impossibilité. Et je pense que de même là, dans les milieux, disons, culturels, les milieux intellectuels, les milieux académiques, on a tendance aussi à attendre de nous ça, une espèce de dissolution, mais qui est impossible, parce qu'on est là. La position dans laquelle on serait absolument et intégralement rassurante n'existe pas. C'est pas possible. Et malgré la chemise à fleurs, ça suffira jamais.
Qu'est-ce qui, dans votre parcours personnel, a le plus façonné votre conscience d'être une femme noire en France ?
C'est toujours, je pense, un rapport à mon corps. C'est toujours mon corps qui déclenche les comportements, les limitations.
Maboula Soumaoro, maîtresse de conférence en civilisation
américaine. Les paroles malheureuses ou agressives, les entravements, de toujours, ça a toujours été mon corps. C'est, pour moi, il y a quelque chose de très physique dans cette histoire. C'est pas une question d'idées, d'idéologie, de philosophie. C'est quelque chose de très concret. Qu'est-ce qui se passe quand vous entrez dans une pièce avec ce corps-là ? Et tout va dépendre de la pièce, de l'endroit, évidemment. Donc, il y a des endroits où vous pouvez passer inaperçu, des endroits où vous êtes presque invisible, peut-être comme les autres, où vous êtes attendu. Et puis après, il y a d'autres espaces dans lesquels votre corps semble faire irruption, déstabiliser. Vous devenez hyper visible. On ne vous attend pas là. C'est une surprise. C'est peut-être même un désagrément. Et donc voilà, c'est, pour moi, c'est la navigation à travers les eaux de ces deux types d'espaces que je viens d'exposer. Et ça, c'est très concret. C'est un regard, c'est un silence, c'est une façon de parler, le ton utilisé, c'est ce à quoi vous avez le droit, ce à quoi vous n'avez pas le droit. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de physique, vraiment fondamentalement physique.
Dans les premières pages des âmes du peuple noir, Dubois demande, un peu amer, quel effet ça fait d'être un problème.
Quel effet ça fait d'être un problème ?
Il explique que, pour lui, la révélation de sa condition noire se produisit dans son enfance, lorsqu'une fillette refusa la carte qu'il lui tendait.
Alors il m'est apparu avec une soudaine certitude que j'étais différent des autres.
Alors il m'est apparu avec une soudaine certitude que j'étais différent des autres. Ou comme eux,
ou comme
peut-être.
Eux, peut-être.
Dans mon cœur, dans ma vie,
dans mon cœur,
et dans mes désirs,
dans ma vie,
mais coupé de leur monde
désirs,
par un immense voile.
Mais coupé de leur monde par un immense voile. Par la suite, je n'eus plus aucune envie de déchirer ce voile, ou de me glisser au travers. J'enveloppais tout ce qui était derrière lui d'un même mépris. Et je vivais au-dessus de lui, dans une région de ciel bleu et de grandes ombres vagabondes.
Dans le monde majoritairement blanc de la Nouvelle-Angleterre, la condition noire se fonde d'abord sur un regard différent posé sur soi. La conscience d'être un fils de la nuit, écrit Dubois. Le sentiment d'être à la fois soi, d'être riche de sa vie intérieure, de ses tourments et de ses espoirs. Bref, celui d'être une personne
unique.
C'est
une sensation bizarre. cette conscience.
Et celui d'être réduit par les autres à son apparence noire.
Constamment se regarder par les yeux d'un autre.
Considéré avec un amusement teinté de pitié méprisante.
Qui vous considère comme un spectacle.
Ce sentiment-là est appelé par Dubois la double conscience d'Américains et de Noirs.
Chacun sent constamment sa nature double.
En dépit de différences évidentes entre les États-Unis du début du XXe siècle et la France du début du XXIe, la double conscience me paraît toujours actuelle.
Deux idéaux en guerre dans un seul corps noir, que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure.
Mon enquête dans la France noire d'hier et d'aujourd'hui a mis d'abord au jour une demande, sans doute pas partagée par tous les Noirs, mais par un nombre si important d'entre eux qu'elle peut être considérée comme une demande collective. Elle peut s'énoncer ainsi. Nous voulons être à la fois français et noir, sans que cela soit vu comme suspect ou étrange, ou toléré à titre de problème temporaire en attendant que l'assimilation fasse son œuvre. Nous voulons être invisibles du point de vue de notre vie sociale et par conséquent que les torts et les méfaits qui nous affectent en tant que Noirs soient efficacement réduits. Mais nous voulons être visibles du point de vue de nos identités culturelles noires, de nos apports précieux et uniques à la société et à la culture française. Ce paradoxe, qu'Éric Fassin appelle « le paradoxe minoritaire », en prolongement du paradoxe féministe de Joan Scott, me semble résumer assez bien les aspirations des Noirs de France. À la question « Quel effet ça fait d'être un problème ?», il est possible, dans le cas français, d'ajouter une autre question. Quel effet ça fait d'avoir des problèmes parce qu'on est noir ? Pape Ndiaye. La condition noire. Essai sur une minorité française.
Ça peut être quelque chose, et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'au fond c'est silencieux. Mais quand même, il y a des regards qui ne trompent pas, qui sont des regards évidemment très dubitatifs, avec des gestes aussi qui s'accompagnent, des téléphones qui se rangent, des sacs qui se rapprochent. Évidemment, moi je peux me dire, ça m'arrive qu'à moi, mais quand je parle avec toutes les autres personnes noires et qu'au fond elles vivent la même chose, je me dis quand même c'est une tonne de subjectivité qui disent quand même quelque chose du monde. Donc c'est toujours violent parce qu'au fond je sais que la personne qui fait ça parfois elle n'est pas foncièrement méchante, elle se dit pas je fais ça pour te faire du mal.
Même le père de mes enfants, donc que je peux pas soupçonner de racisme
Estelle
ni rien,
Sarabulle.
Il avait du mal à comprendre ce que je lui racontais de l'expérience que je vivais moi.
Autrice.
Par exemple, une fois, je suis allée chez le coiffeur avec ma deuxième fille qui a les cheveux, on va dire, bouclés, mais vraiment à peine bouclés. Et on est rentré chez la coiffeuse, on n'avait pas pris de rendez-vous, on venait prendre rendez-vous. Elle nous a vu rentrer, la coiffeuse, elle a dit « Ah non, moi je coiffe pas vos types de cheveux ». Et elle m'a même pas laissé ouvrir la bouche. Et j'ai même pas eu le temps de dire « Mais c'est pas pour moi, parce que moi je suis habituée à ce qu'ils coiffent pas mes cheveux ». Mais pour ma fille, c'était impossible. Et je raconte ça donc au père ou à ma mère, je sais plus, qui sur le coup sont choqués et leur première réaction c'est de dire ah ben moi si c'était moi j'aurais cassé la figure, mais ça c'est pas possible, ça c'est les films qu'on se fait, mais personne en fait n'ira casser la figure à une coiffeuse parce qu'elle dit ça, c'est pas vrai. Et donc à la limite ils sont tellement gênés, coincés que ça se retourne contre moi. C'est et pourquoi t'as pas réagi, et pourquoi voilà, parce que c'est trop dur pour eux d'entendre ça. Ou alors, le père de mes enfants, je sais qu'il minimisait beaucoup. À chaque fois, il disait « Mais parce que t'es tombé sur une conne ?» Et quand je disais « Non, c'est structurel, il y a vraiment un truc de société. »« Mais non, t'exagères. » Et donc, à la fin, on se dit « Bah, soit c'est moi qui suis folle ou parano, soit les autres ne comprennent pas et je suis dans une autre dimension, quoi. » Et on se rejoindra, on est sur des planètes qui se rejoindront pas. Et c'est James Baldwin qui disait déjà ça dans les années 50, hein, donc ça date pas d'hier. On est obligés, nous, d'avoir un double niveau de conscience. C'est-à-dire d'avoir conscience de ce qui nous arrive et de devoir se mettre à la place du blanc pour comprendre comment lui, il peut raisonner, alors que lui, il se met pas à notre place. Donc on est obligé à la fois d'être dans les deux pour essayer de comprendre et pas devenir fou. Donc voilà, on est tout le temps pris là-dedans.
I finally brought my faith.
Et moi, j'ai le souvenir, et tu dois avoir les mêmes, télévisuels, de ces espèces de pubs pour L'Oréal, qui a inventé la blondeur, d'ailleurs, faut quand même le dire, avec ses cheveux, voilà, cette fille qui passe ses mains dans ses cheveux, qui sont très longs, qui bougent, qui sont comme des serpents, qui volent au vent. Qu'est-ce que c'est que cette différence et comment toi, t'as regardé ça?
Petite, j'ai complètement absorbé ça. Moi, je suis une fille des années 80, une enfant des années 80, donc on est à fond dans la pub, le rutilant, l'Amérique dominante de Reagan, Thatcher, donc c'est une société consumériste avec des modèles patriarcaux très forts. Mais encore une fois, on baignait tellement là-dedans que c'est aujourd'hui, en 2025, qu'on a le recul et les concepts pour analyser ça. Mais quand on baigne dedans, bah évidemment, on n'absorbe que ce qui est beau, c'est la blondeur et les cheveux raides, brillants, et pas les cheveux noirs, crépus, frisés, qui bougent pas dans le vent, qui montent au lieu de descendre. Donc, effectivement, j'étais complètement là-dedans. Et comme mes amis avaient ce type de cheveux, bah, effectivement, moi, je considérais que les miens étaient quelque chose de honteux.
On dit beaucoup que les cheveux, c'est voilà, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir érotique de la femme, quoi. Que c'est là que aussi que voilà, les hommes portent leur tout leur désir et là-dessus, on les cache, on les attache, on leur change leur couleur. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une coupe, avoir des cheveux qui n'entrent pas dans le champ de la désirabilité?
Eh ben, c'est effectivement, quand on se construit en plus comme une petite fille et puis une adolescente, c'est se dire je ne suis pas désirable. Voilà, je n'ai pas les critères de féminité, je ne correspond pas à la norme de la société dans laquelle je vis, donc je serai toujours moins bien que n'importe quelle autre fille qui a les cheveux qui correspondent aux normes. Alors on sent bien quand même qu'il y a une entourloupe derrière ça. Parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup d'épithètes complètement sexualisées qui sont attachées au noir à l'époque. Hein. C'était la panthère, c'était l'objet sexuel, c'était ça. Donc il y avait une sorte de contradiction entre ce qu'on me renvoyait comme étant pas beau, des cheveux pas attirants, et en même temps un corps et finalement des cheveux hyper sexy. Il y a quand même, ça je l'ai su bien après évidemment, mais dans le code noir, il était interdit aux femmes noires esclaves de montrer leurs cheveux. Pourquoi ? Notamment parce qu'on disait que c'était une attraction sexuelle et que ça allait détourner les hommes blancs de leur droit chemin, entre autres. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une contradiction entre c'est pas beau, c'est répugnant, et en même temps c'est attractif et on est animalisé et sexualisé. Donc quand on est adolescente, eh ben, il faut se construire à travers tout ça, et c'est une espèce de jungle de contradictions et de choses qu'on vous impose, dont on se passerait bien.
C'est vrai que j'ai l'impression quand même aujourd'hui de surperformer ma féminité, mais c'est, je pense, pour compenser le fait que y a toujours un petit truc dans ma tête qui me dit peut-être qu'on ne voit toujours pas comme une femme dans l'espace public, mais juste comme une personne noire.
C'est intéressant, mais est-ce que tu arriverais à expliquer ce que c'est que dénier la féminité? Des exemples précis, tu vois,
bien sûr, c'est quand j'étais à l'école primaire ou même ado, où on me comparait à des footballeurs hommes.
Christelle Murula.
Oui, c'est ça, c'est dire aussi que j'étais une, je cite Niafou, donc Niafou dans les cultures populaires et dans les quartiers populaires à l'époque, c'était un terme pour dénigrer les femmes noires spécifiquement. Une Niafou, c'était quoi? C'était une femme noire qui ne ressemblait pas à une femme, qui s'habillait mal, qui était censée être sale, quoi. Et aussi, on m'a traité de Fatou, entre guillemets, alors que c'est un prénom et non pas une insulte. Et une Fatou, c'est pareil, en fait, on assimilait les Fatou aux blédardes, c'est-à-dire les filles qui venaient du bled, qui avaient immigré en France et qui, pareil, n'avaient pas incorporé la mode. J'ai toujours porté des tresses, j'ai jamais porté de perruque, et je sais que on s'est moqué de moi parce que je portais des tresses et pas des perruques, et selon pas mal de gens, à l'époque quand j'étais au lycée, porter des tresses c'était vraiment un marqueur de t'es une blédarde, quoi.
Est-ce que toi, le fait d'avoir la peau foncée, ça a été un obstacle à ton sentiment de désirabilité ?
Alors oui, moi ça a été un obstacle et c'est toujours une question que je me pose sur la désirabilité. Enfin, c'est un travail que je suis en train de faire encore
Safia
à 30
Fierce,
ans aujourd'hui.
Comédienne et créatrice de contenu.
Moi, pendant très longtemps, je ne me suis pas sentie désirable. Il a fallu quand même attendre un âge adulte, quand même un peu avancé déjà, pour que je commence à me sentir bien et que je m'approprie en fait une désirabilité que, dont je pensais qu'il m'était pas autorisé. Parce que enfant, le fait d'être une femme noire foncée, aussi d'origine africaine, j'ai eu beaucoup d'insultes misogynes noires au collège. Donc il y avait les Niafou, les Fatou. Même quand il y avait des classements pour savoir qui était la plus jolie, on n'était même pas dans le classement tellement on n'avait pas le droit à cette désirabilité. Et moi, pour m'en sortir, j'ai tout misé sur les notes, sur les performances académiques et sur l'humour, parce que je me donnais l'impression que c'était ça qui me donnerait de la valeur, puisque j'avais pas le droit à cette féminité qu'on donnait aux autres femmes habituellement. Et je sais que c'était beaucoup lié à ma couleur de peau, parce que des femmes plus claires avaient pas exactement les mêmes problèmes que les miens. Et oui, le fait d'avoir été prise pour un homme, ça pouvait m'arriver, surtout quand j'avais des cheveux rasés ou des cheveux un peu courts, quoi. Et c'est pour ça que je pense que j'ai toujours un peu ce truc-là où je vais chercher, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je vais faire des presses qui sont longues. Ils veulent me silencier.
Ils mettent le silence.
Des tresses longues.
Je venais de faire une résidence de plusieurs mois auprès de lycéens en CAP coiffure, donc destinés à devenir coiffeur 2 ans plus tard. Hein. Donc ils avaient 15 ans, mais ils allaient se retrouver très vite sur le marché du travail avec leur formation. Et il se trouve qu'en fait, c'est la proviseure de ce lycée à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, qui avait décidé que si une écrivaine devait venir, parce que moi, j'avais proposé mes services pour faire une résidence d'écrivaine dans ce lycée, mais sans avoir de projet spécifique en tête. Et c'est elle qui s'était dit, bah moi, je suis d'accord pour recevoir une écrivaine, mais ce que je veux, c'est qu'elle travaille avec ses élèves, parce que ils sont quand même assez éloignés de la littérature et de la chose écrite. Ils vont aller très vite dans le monde du travail. Donc, s'il y a un moment où ils peuvent discuter avec une autrice, discuter un peu hors des sentiers très balisés de leur formation, c'est maintenant. Je trouvais que c'était une très belle démarche. Et donc, je me suis dit que j'allais chercher dans la littérature des thématiques liées aux cheveux pour en discuter avec eux. Et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait que le cheveu était en fait un thème qui revient énormément dans toutes les littératures du monde, à toutes les époques. Et donc c'est comme ça que petit à petit je me suis mise à discuter avec eux, j'ai appris d'eux aussi, notamment c'était en 2019-2020 ça, et je me suis aperçue avec stupéfaction que leur tête à coiffer qui était dans le lycée, donc les têtes sur lesquelles ils apprenaient à coiffer, n'avaient que des cheveux raides. Alors que eux-mêmes étaient issus de la diversité, donc il y avait des jeunes, des ados venus d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, qui avaient tout type de cheveux. Il y avait du cheveu très lissé, mais qui était plutôt de nature, je dirais, ondulée, jusqu'aux cheveux très crépus. Et ils ne coiffaient que des cheveux naturellement raides. Et donc ça m'avait frappé, ça. Je leur avais demandé un petit peu, mais comment ça se fait ? Et eux-mêmes en étaient conscients. Il me disait, bah effectivement, on travaille que un type de cheveux, alors que nous, on voudrait pouvoir travailler pour tout le monde. Ils avaient vraiment, c'était des élèves qui étaient vraiment contents d'être dans leur formation. C'est pas quelque chose qui leur avait été imposé. Ils avaient vraiment envie d'être coiffeurs. Pour eux, c'était rendre service à l'autre, faire du bien à l'autre. Et donc, ils se désolaient eux-mêmes d'être coupés, de toute façon, d'office, de toute une population.
Bien fort le refus de la femme noire chez les hommes noirs, même si j'ai quand même un peu l'impression que ça commence à s'atténuer.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la misogynie noire ?
Enfin, c'est la contraction entre les mots misogynie et noir. Donc la misogynie qui est spécifique envers les femmes noires, donc ça a été théorisé par Moya Bailey, qui est une universitaire queer afro-américaine et qui justement avait pris comme exemple des exemples de pop culture, donc des clips de rap, des sitcoms, etc., pour montrer que les femmes noires étaient victimes d'une misogynie qui était spécifique, une misogynie qui était colérée au colorisme, colérée à des stéréotypes très très fort. Soit les femmes noires étaient très hypersexualisées, pas du tout vues comme des femmes à la féminité dite classique, douce, etc. Soit elles n'étaient pas du tout sexualisées, bien au contraire, mais vues comme juste des meilleures amies ou des psychologues de service. Enfin, c'est ça la misogynie noire, quoi.
Alors moi, il y a quelque chose que j'adore sur ton compte Instagram, c'est des vidéos où tu rends hommage à un acteur qu'on connaît bien depuis très longtemps, c'est Vincent Cassel. Alors est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce que c'est que la négrophilie et que t'as fait Vincent Cassel?
En vrai, c'est ma muse, Vincent Cassel. Mais je dirais que, alors, je sais pas si je peux parler de négrophilie, c'est plus fétichisme, j'utilise plus négrophilie parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu provocation, et c'est un terme que lui-même a utilisé, enfin, en tout cas que son entourage aussi a utilisé et qu'il revendique. Mais dans le cadre de Vincent Cassel, par négrophilie, on entend, le fétichisme. Il a cette manie maintenant de sortir avec des femmes qui se ressemblent beaucoup, et des femmes qui ont le même profil, qui sont des femmes métissées, et, on a l'impression que vraiment elles sont substituables, quoi. Voilà, ça peut, peu importe leur individualité, tant qu'elles sont métisses et jeunes, parce qu'il faut préciser quand même, faut qu'elles soient jeunes, je pense qu'il faut qu'elles aient moins de 25 ans, il va se mettre en couple avec elles. Parce que là, on n'est pas en train de dire qu'ils ne devraient pas relationner avec des femmes métisses, c'est pas ça le problème. Mais quand c'est systématique, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez problématique. Et il avait eu, je pense, au début de l'année 2000, dans un magazine, il avait quand même employé le terme de jungle fever. Et du coup, c'est un peu cette expression-là qui veut dire que voilà, il aime beaucoup les femmes non blanches. Quoi. Il a une forte attraction sexuelle pour les femmes non blanches. Il y a quand même ce truc très malsain, et souvent c'est difficile de pouvoir dénoncer un peu ça parce qu'on se dit il n'est pas raciste. C'est ok de pouvoir aimer des personnes noires ou métisses. Mais en fait, là, ce qui est un peu là où c'est un peu compliqué, c'est que il objectifie quand même ces femmes-là parce qu'elles sont femmes métisses et parce qu'il y a le mythe aussi de la femme sauvage et tout. Et donc c'est pas que du cringe, c'est gênant, mais c'est plus parce que il y a des dynamiques aussi, du coup racistes, mais aussi en termes d'âge, quoi. Parce que voilà, il prend des femmes qui ont 30 ans, voire 40 ans de moins que lui.
Très jeune.
Très jeune.
Il nous ouvre son inconscient.
Ah, lui, il est très clair. Il a mentionné négrophilie et jungle fever. Il connaît son karaté. Hein.
Dans un monde idéal, ce serait aux personnes blanches de prendre en charge le travail de démantèlement de la suprématie blanche. You break it, you fix it. C'est à vous de réparer ce que vous avez cassé. Nous sommes déjà assez occupés à survivre aux violences et aux discriminations que nous subissons. La moindre des choses serait de ne pas, en plus, nous demander de faire l'éducation des personnes qui nous oppressent. Malheureusement, tout comme la lutte contre le patriarcat est presque exclusivement menée par les femmes, alors que les hommes représentent une bonne moitié de la population et la quasi-totalité du problème, la lutte contre la suprématie blanche est elle aussi très largement menée par les racisés. Les personnes blanches me demandent pourtant de façon récurrente ce qu'elles pourraient faire. Et je réponds invariablement « Interrogez votre blanchité. Conscientisez votre entourage. Être présente lors de manifestations contre les violences policières, etc. » Mais j'ai rapidement compris que les hommes, les bourgeois, bourgeoises et les personnes blanches, c'est-à-dire les personnes qui sont en position de domination de manière générale, ont en commun une aversion profonde pour l'inconfort, l'effort et l'honnêteté radicale, y compris quand elles se réclament de valeurs de gauche. Il est très facile et gratifiant de militer pour les sans-papiers, d'afficher son autocollant « Touche pas à mon pote » ou de déclamer son admiration pour Angela Davis, Bell Hooks ou James Baldwin. Mais quand il faut remettre à sa place la tante raciste au repas de Noël, dénoncer les propos antisémites du leader de son parti politique, ou se battre pour le passage en section générale d'une élève noire qui a des bonnes notes mais que des collègues jugent trop besogneuse, là il y a moins de monde. Pour nous, qui sommes constamment entravés et empêchés par la suprématie blanche, il n'est d'autre option que la lutte. Si j'ai une ambition avec ce livre, c'est de vous convaincre que vous n'avez pas d'autre choix non plus. Dans le contexte occidental, donc, parler des effets mortifères de la suprématie blanche, que dis-je, même la nommer, c'est un peu comme péter à table. Ça contrevient à l'étiquette raciale. C'est encore la psychanalyse qui m'a permis de prendre conscience que j'avais certes commencé à parler, mais que je n'étais pas allée au bout de ma démarche d'émancipation. Ma guérison, qui se poursuit avec ce livre, consiste à cesser de me faire toute petite pour ne pas effrayer, à arrêter de parler avec ma voix blanche quand j'appelle les administrations. Toi-même, tu sais, camarade noir. Commencer à péter à table, si je veux. Vivre libre. Amandine Gay.
Moi, c'est pas tant sur la jubilation de la domination que sur la jubilation de ne pas être dominée.
Douce Dibondo.
Et je pense que c'est là où se joue tout ce mur de la blanchité. Certes, en tant qu'individu, une personne blanche ne va pas jouir de la souffrance noire, de ses corps tués sous le genou de flics. Ou... Évidemment que ces personnes sont humaines, les personnes blanches. À mon sens, hein, la blanchité, c'est désormais de se dire « Bon, bah, c'est comme ça, c'est le système. Malheureusement, il y a une impuissance partagée. Tant que ça ne me touche pas, tant que ça ne touche pas les miens, eh ben, soit. » Mais c'est là, pour moi, où c'est encore plus insidieux. Parce que si c'est des fascistes, etc., pour qui la domination... C'est dans leurs valeurs, c'est-à-dire de montrer à quel point l'Europe est puissante, à quel point les personnes blanches, etc., ont éduqué le monde entier par, finalement, leur bonne humanité, hein, en apportant la civilisation, etc. Bon, ça, on les connaît, ces discours-là. Mais se détacher, se montrer insensible au racisme, parce que finalement, ce qui est partagé, c'est que le racisme ne concerne pas les personnes blanches, hein. Elles en bénéficient, mais apparemment, ça ne les concerne pas, alors qu'elles ont les bonus de tout ce système-là, hein, de la naissance jusqu'à leur mort. Qu'elles aient été des héritières ou non d'anciens esclavagistes, d'anciens commerces négriers, etc., elles en bénéficient, structurellement. Et donc, pour moi, ça, ce mur de la blanchité, c'est ça, c'est cette épistémologie de l'ignorance. C'est-à-dire que, de manière paradoxale, la blanchité, c'est ça. C'est de devoir... vivre dans une insouciance, de devoir performer l'ignorance, alors que tout, absolument tout, dans le monde, prouve à quel point le colonialisme, l'impérialisme, le racisme, l'esclavagisme, etc., sert à l'Occident, sert, et qu'au sein même de l'Occident, il y a aussi des hiérarchies selon les races sociales. Et c'est là où s'insère cette jubilation-là, cette jouissance-là. Je ne me dis pas dominant, mais en tout cas... Quel soulagement de ne pas être dominé.
Et en plus de ça, il y a vraiment ce côté très, très sneaky, très insidieux. C'est le fait que quand on te donne ta chance, je cite encore, comme si vraiment on te faisait une fleur alors que tu travailles d'arrache-pied.
Christelle Murula.
Exemple, imaginons un jour je deviens chef de rubrique ou rédactrice en chef ou directrice d'une rédaction, j'en sais rien, et que je deviens la première femme noire à l'être en France. Eh ben, je sais qu'il y aura forcément beaucoup de personnes qui se demanderont, est-ce qu'elle est là parce qu'elle est noire et parce que ça, il faut faire, ça doit faire joli, ou est-ce qu'elle est là vraiment pour ses compétences? Et le truc, c'est que moi-même, en fait, je me poserais cette question, est-ce que je suis là pour, justement, soit rassurer une population, soit faire en sorte, être le quota de diversité, ou est-ce que je suis là parce qu'ils ont vraiment vu mon travail, enfin... C'est vraiment, en fait, on est des invités dans ce monde-là. On est des petites épices. J'ai l'impression. Non, mais parfois, j'ai vraiment l'impression d'être la petite dose d'épices dans les rédactions, parce que mais tu vas apporter quelque chose en plus. Ouais.
Ton sourire.
Voilà, mon sourire.
Ton beau soleil intérieur.
Oui.
Vous êtes tellement lumineux.
Mais oui, tellement chaleureux.
Tellement chaleureux.
Moi, je suis pas tout le temps souriante, loin de là. Je suis même très timide. Mais en fait, c'est ça, les gens... je sais que, par exemple, dans certaines rédacs, quand j'étais en stage ou autre, ils s'imaginaient vraiment que comme j'allais arriver, j'allais être la petite fille noire qui allait faire rire tout le monde, qui allait apporter, je sais pas, du peps, des blagues, etc. Bah, en fait, je suis timide et je suis là pour travailler. Et si je m'entends bien avec toi, bah oui, bien sûr, là, je vais me lâcher. Mais sinon, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, bah, j'entendais des petits commentaires en mode « Ah, mais en fait, mais t'es calme » ou alors « Mais t'es énervée ?» Bah non, je suis juste dans mon monde. Enfin, je sais pas, je travaille comme toi. Ou juste, bah, j'ai pas forcément envie de faire de blagues aujourd'hui. Enfin, je sais pas quoi. Tu dois. On dirait qu'on est des personnages. Mmh. Ouais. Qu'on doit convenir à un rôle prédéfini. Et même au travail, quoi. Enfin, tu te dis, ok, tu m'as embauché pourquoi ? Pour que je te fasse des blagues ou pour que j'écrive des articles ?
En fait, c'est comme si c'était une grande pièce de théâtre ou un film qu'on tournait, quoi. En fait, on est. Mais si on n'a pas écrit le scénario, quoi.
Oui, non.
On n'a ni les dialogues, ni le scénario.
Non, non, non. Et on doit suivre le scénario qui nous a imposé. Et on ne peut pas le changer, on ne peut pas faire en sorte qu'il s'améliore pour nous ou alors. Sauf miracle, quoi. Je suis très pessimiste, mais c'est parce que je me suis vraiment pris cette année de plein fouet le fait que être noire dans ce milieu journalistique très blanc, très bourgeois, qui est aussi très dans des codes, bah, c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Et je dois encore bosser deux fois, mais même pas deux fois, voire trois fois plus, parce que j'ai bien vu que bosser deux fois plus, ça ne suffisait pas.
Le racisme, il est partout. Il est partout et il est vraiment... il est systémique.
Maboula Soumaoro.
Alors, en France, on utilise beaucoup « racisé ». Moi, j'ai une déformation professionnelle, donc je suis angliciste. Alors, j'utilisais avant « racialisé », mais ce dont je parle, c'est de la racialisation négative. Parce que tout le monde est racialisé. Mais la question, c'est qu'on est racialisé positivement ou négativement. En gros... Personne n'existe, ni les noirs, et là je reste schématique, on reste dans le binaire noir-blanc, mais il y a d'autres couleurs entre. Personne n'existe et tout le monde existe. Quand je dis personne n'existe, c'est que dire noir, dire blanc, par rapport à la science, par rapport à notre humanité commune, à laquelle je m'accroche, ça ne veut rien dire. Mais socialement et politiquement, oui, il y a ces catégories qui ont été créées. Mais elles ont été créées, les noirs comme les blancs. Les noirs et les blancs ont été créés en même temps et de manière complètement opposée. Donc, quand on dit racisé, pour moi, j'entends défavorablement racialisé. Blanc, c'est favorablement racialisé. Puisque les processus de racialisation, ils ont joué, ils ont été opérants pour tout le monde. Donc, quand je parle maintenant de racisme systémique, c'est ce qui va, au final, faire en sorte que, si on va prendre votre milieu, il y aura principalement des personnes qui sont blanches et qui sont, je sais pas moi, bourgeoises. Principalement. Pourquoi ? Parce que qui habite où ? Qui est né de qui ? Qui a fait ses études dans tel ou tel établissement ? Qui a eu accès à telle ou telle opportunité ? Qui a obtenu un contrat d'embauche lors d'entretiens passés ? Et qui a le travail au final ? Et à chaque étape, il y aura la question de la race, comme la question de la classe, comme la question du genre, comme la question du validisme. C'est ça le racisme. Donc si on a besoin de s'imaginer, de s'agripper à la figure d'un skinhead qui est en train de courser quelqu'un, un arabe, un noir, un asiatique, un rom armé d'une batte, et que ça seulement c'est du racisme, eh ben il va falloir aussi... accepter de regarder l'histoire coloniale et l'histoire esclavagiste qui ont produit les identités raciales qui nous empoisonnent aujourd'hui encore. Le racisme, c'est très commun. C'est très commun.
C'est quoi son problème ? Il s'est jamais comporté comme ça avec un autre de mes mecs. Jamais, c'est quand même dingue ça. Et mon père a appelé tout le temps mon poteau sans arrêt. Mon poteau par-ci, mon poteau par-là. On aurait dit qu'il venait d'apprendre cette expression aujourd'hui. Non, je te jure, il en avait plein la bouche de ce mon poteau.
Ouais.
Sans compter ma mère qui est impolie avec Georgina. Non mais c'est quoi cette famille ? C'est n'importe quoi. En fait, en quoi sont-ils différents du flic de ce matin ?
than that cop.
Là, on a vraiment touché le fond.
That's the fucking bummer of it all.
Mm-hmm. Mm-hmm. Peut-être que t'as envie mm-hmm. d'ajouter autre chose.
Anything more you'd like to add?
Attends, dis ça.
Je t'avais prévenu, je crois.
Est-ce que ça a été un moment important pour toi, la vision du film Get Out de Jordan Peele?
Ouais. En fait, c'est vraiment l'une des séances de cinéma dont je me souviendrai pour toujours. En fait, je n'ai jamais vécu de séance de cinéma pareille. C'est-à-dire que le film, aux États-Unis, il était déjà sorti depuis un moment. Et moi, j'avais tout fait pour éviter les spoils et tout, parce que vraiment, ça spoilait de partout. Et j'étais partie à une avant-première. Je me souviens, c'était au MK2 Bibliothèque. Et on était beaucoup, beaucoup, beaucoup de noirs dans la salle. Je pense que c'était bien la première fois que je voyais autant de noirs dans une salle de cinéma. Et je me souviens d'avoir vu ce film et de me dire, c'est très effrayant. Il n'y a pas forcément de scène gore et il n'y a pas forcément de jumpscare, mais je trouve que ça fait très peur. Moi, il y a une scène en particulier où justement Chris se rend compte qu'il ne va pas pouvoir sortir de cette maison, où tous se réunissent autour de lui et se rend compte aussi que sa compagne n'est pas celle qu'il croit. Et tu sens toute la peur, en fait, où tu te dis, en fait, ils vont me tuer, ils vont faire je sais pas quoi à mon corps, et la seule et unique raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je suis noire. Et je me suis dit, waouh, ça, en fait, c'est la démonstration de pas mal de situations où tu te dis la seule raison pour laquelle je me suis pris cette insulte, c'est parce que je suis noire, la seule raison pour laquelle, etc., etc. Et en plus de ça, il y avait une effervescence dans la salle où on applaudissait, où on rigolait très très fort, où il y avait des insultes, même des chips qui fusaient, où j'ai vraiment vécu une expérience de découvrir un film d'horreur qui prend en compte la race. Mais par contre, on ne voit pas de corps noir mutilé. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ce film, il était parfait et je le trouve très marquant. Ça réussit justement à réunir pas mal de choses, que ce soit le racisme ordinaire, les relations interraciales, qu'est-ce que ça fait quand tu rencontres les parents de ta copine ou de ton copain blanc, quand tu rencontres sa famille, les micro-agressions, etc. Ça réunit tellement de choses. Le racisme de gauche aussi, qu'est-ce que c'est? Enfin, il est parfait ce film, en fait. Il est juste parfait, ouais.
Moi, je commence à me voir. Je, avec ce film-là, par exemple, je me vois. Mais c'est intéressant qu'on se voit surtout dans des films d'horreur. Dans les films de genre, oui. On est dans. Après, il y a une certaine histoire quand même des films de genre africains-américains. Mais là, c'est une nouvelle vague qu'on a critiquée aussi parfois, que c'était une espèce de pornographie, d'horreur raciale, etc. Mais les meilleurs films du genre, pour l'instant, je pense que les deux qui règnent au sommet du genre, c'est Get Out et Sinners, ne sont pas là-dedans. Enfin, ils ne sont pas dans cette espèce d'insistance particulière sur une violence crue. Ils montrent l'horreur du rapport racial lui-même, je pense.
Get Out, ouais, c'est 2016.
Sandra Onana.
Je me rappelle, moi, je vivais aux États-Unis à l'époque et tout le monde ne parlait déjà que de ça. C'est un film qui arrivait pas dupe de ce que c'est qu'être un noir dans un film d'horreur, qui détournait devine qui vient dîner à la maison ce soir, à l'époque Ciné Poitiers, pour renvoyer un reflet d'une forme de racisme que je trouve plus subtile que celle qui pouvait être dénoncée jusqu'ici. C'était une sorte de racisme bienveillant d'une époque post-Obama qui disait qu'on avait surmonté le racisme et que c'était pas pertinent. Et c'était cette idée post-Obama, post-racisme. Est-ce que t'as dit à tes parents que je suis noire? Pourquoi est-ce que je l'aurais dit? Quelle importance ça a? Et de se dire que le malaise qu'on ressent, en fait, vient de quelque part et que, effectivement, c'est toutes les névroses, tout l'impensé de l'Amérique raciste qui finit par exploser et qui d'abord est distillé par petites touches avec ses domestiques noirs dans une belle demeure blanche, dans ce service à thé qui charrie le souvenir de l'esclavage, et avec un personnage de photographe, ce qui était très fort, à qui on va vouloir prendre ses yeux et son regard. En fait, il y avait aussi un imaginaire de la possession des corps qui rappelait, à l'époque, on avait beaucoup parlé de The Invasion of Body Snatchers, les zombies, de ceux qui vont Ouais, qui vont servir de vaisseaux, de véhicules pour que les Blancs puissent s'approprier ce qu'ils ont, ce qu'on recherche chez eux, leur force, leur regard, etc. Et non, Get Out, pour moi, c'est à la fois inégalé et en même temps que ça a été le manifeste de Jordan Peele, cinéaste, qui a après fait des œuvres beaucoup plus ambitieuses, peut-être beaucoup plus alambiquées dans l'horreur, que moi j'aime beaucoup. J'adore Nope, j'adore Us, et à qui on a presque reproché un peu, c'est toujours le problème du One Hit Wonder, de pas avoir refait un Get Out et que Get Out c'était mieux. Des gens trouvaient arrogant ensuite qu'il s'essaye, il y a de la grande science-fiction de 2h30, un film allégorique sur la condition des Noirs dans les sous-sols de l'Amérique, etc. Et ça leur plaisait, je crois, la modestie de la petite série B, du type qui arrivait, encore une fois, avec le masque du pitre au départ. Donc voilà, pour moi, Get Out, c'est quand même un sommet qui infuse maintenant dans le cinéma d'horreur, dans la référence de ce que c'est qu'une allégorie raciale, sociale de l'Amérique, mais brillante.
Tu viens d'où ? Histoire d'un cliché. Avec Douce Dibondo, Sikou Niakate, Sandra Onana, Norman Najari, Maboula Soumaoro, Christelle Murula, Safia Fierce, Estelle Sarabulle. Lecture, Erwan Kepoafale, Astrid Bahia. Merci à Brontès Pernel et Alexandre Goldman. Prise de son Tahar Bouklifa, Delphine Baudet, Élise Leu, Sébastien Huel, Julien Girard. Mixage Nadège Antonini. Documentation d'actualité Alice Signoret, Eva Canéparo. Documentation musicale Antoine Villose, Nathalie Rouvillain, Samy Messaoud. Chargée de programme, Marie-Vona Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. La vie en noir, une série documentaire de Sébastien Thème, réalisée par Yaël Mandelbaum.